Autre radio, autre culture, bonjour. Émission également diffusée sur audiopeople.fr. Aujourd'hui, nous sommes en vadrouille dans Paris, dans le 13e arrondissement, rue Pascal. Et nous allons arriver aux établissements Jean-Guilleminot avec la participation de monsieur Marc Manceau. J'arrive devant l'antre, le domaine de monsieur Manceau, fourniture générale pour le piano. Bonjour.
Déjà le micro à la main,
oui, je suis déjà en train d'enregistrer. Comment allez-vous?
Pas plus mal, c'est déjà énorme. Bonjour Marion, merci,
voilà.
Merci d'être venue me demander comment se porte le piano en France à l'heure actuelle.
Oui, parce que c'est toujours très intéressant de savoir ce que devient l'acoustique par rapport aux instruments acoustiques, par rapport à tout ce qui se construit au niveau numérique. Et je voulais savoir quel était votre état d'âme et puis savoir un petit peu comment ça marchait et ce que vous faisiez.
Mon état d'âme, il est un peu triste, mais on fait semblant de rire. C'est le numérique dans nos agglomérations qui prend un peu le relais, parce qu'on peut jouer en modulant le son. Un piano, dès qu'on appuie la note, ça sonne. Plus ou moins fort, mais ça sonne. Il y a peut-être un risque aussi, une déculturation des jeunes, malheureusement, pour tout ce qui est musique classique. Le piano, heureusement, sert pour le jazz et à des nouvelles musiques. La réparation, on en fait un petit peu, mais malheureusement, beaucoup de pianos vont se faire réparer en Pologne maintenant. De nos jours, il y a des semi-entiers de pianos qui partent en Pologne pour se faire réparer parce que la main-d'œuvre est trop chère ici. Ça changera certainement quand la Pologne ajustera ses tarifs à l'Europe, ça changera. Mais on s'accroche quand même et on est plein d'espoir et on sera optimiste à la veille de notre mort ici. Donc ne vous inquiétez pas.
Mais le fait de se tourner vers le numérique, vers des pianos numériques, cela ne vient pas aussi du fait qu'on n'a pas besoin de les accorder tous les 6 ou un an, qui sont quand même des petites sommes à mettre chaque fois. Et le fait aussi que tout le monde peut taper dessus sans que ça finalement abîme le piano.
Oui, effectivement, il faut prendre en compte l'accord. L'accordage du piano, c'est environ 90 euros, ça dure 1h30. On croit que c'est bien payé, mais il faut parfois 1 heure d'embouteillage pour y aller, une autre heure pour revenir. Mais dans les pianos numériques, il n'y a pas cette considération d'accordage. Et il y a beaucoup de gadgets qui font que l'on peut changer de sonorité. Pour les jeunes, c'est très attrayant, les rythmes et tout ça. Le piano s'adresse encore à une certaine clientèle, même dans le jazz, même dans les musiques modernes, à des esthètes qui veulent absolument le son du piano pour arriver à rendre ce qu'ils sentent. Le piano aussi, il y a quand même des gens de culture assez classique qui ne supportent pas d'avoir quelque chose de clignotant avec des petits boutons. Ils veulent absolument le piano, c'est quand même un des rois des instruments. Et dans leur salon, ils sont mal s'ils n'ont pas un piano. Il existe encore des gens comme ça.
Alors, par exemple, pour des gens comme moi qui ne font que pianoter tous les jours, il est évident aussi que le toucher d'un piano classique, dirais-je, n'est pas du tout le même qu'un toucher de piano numérique. On n'arrive pas à avoir cette même sensation et ce même toucher au niveau, quand on veut faire du doux ou du plus brutal, dirais-je. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Vous avez raison. L'étymologie du piano, c'était au début, fin 18e siècle, piano forte. On appelait ça le piano forte. Parce que contrairement au clavecin, où dès qu'on appuyait doucement ou fort une note, le son était le même. Dans le piano, on pouvait jouer piano doucement ou forte, fortement. Et bizarrement, comme les langues sont parfois paresseuses, on a gardé que le mot piano, qui signifie doux, pour désigner un instrument qui maintenant joue extrêmement fort, surtout dans l'esthétique sonore japonaise. Et pour revenir à votre question, c'est le plaisir du toucher du piano avec tout cette décomposition de mouvement, d'échappement, de rechute, d'attrapage, qui ne trompe pas les bons pianistes, parce qu'ils veulent, ça fait partie du jeu, cette possibilité de jouer fort ou doux, de pouvoir jouer sur la décomposition du mouvement du marteau, fait que certains pianistes est irremplaçable. Ils ne pourront jamais jouer l'ersatz électronique que vous citiez. Il faut savoir aussi que c'est très lourd, malheureusement, et c'est pour les gens qui sont mobiles, c'est quand même beaucoup plus pratique. L'avantage des pianos numériques fait qu'on part avec sous le bras. D'un piano à queue, il faut parfois les sortir par les fenêtres, faire venir une grue, et rien que pour ça, c'est parfois le budget de deux pianos numériques pour retirer un piano à queue un peu conséquent en démontant les balcons et compagnie, quoi. Donc le piano numérique s'adresse aux gens mobiles qui jouent quand ils ont envie, qui peuvent jouer, qui ont des inspirations musicales à 3h du matin, et le piano, le vrai piano, c'est pour les studios, pour les grands pianistes, pour les nostalgiques d'une époque ancienne où chaque maison comportait un piano.
Il y a quelqu'un qui arrive.
Oui.
On va.
Bonjour, ma femme, Elisabeth, qui me seconde.
Bonjour, Elisabeth.
Oui.
Il y a. Celui-ci, voilà. Ou celui-ci, il est dans
ça, c'est un crapaud.
C'est un petit quart, il fait 1m55-60. Ouais. Parce que le crapaud, c'est en dessous d'1m45.
Il fait 1m37.
Il y en a parfois d'1m30-35. Alors là, ça sonne moins bien qu'un piano droit. On a quand même un avantage, c'est que le toucher est naturel. Parce que dans un piano à queue, c'est la pesanteur qui fait revenir les marteaux. En revanche, dans un piano droit, ce sont des ressorts, des petites lanières de rappel, et c'est moins franc comme toucher qu'un piano à queue. Là, seulement, la longueur des cordes induit la qualité du son aussi. Hein. Plus c'est long, plus c'est bon, quoi. Alors, je vais faire un peu de place pour vous présenter cette chose.
Alors, il faut savoir que l'atelier de Monsieur Monceau, il est rempli de pianos, piano droit.
De pièces détachées.
De pièces détachées, là. On voit plein de claviers.
Non, mais ne faites pas tout. Parce que ça, c'est quelle époque? Je vois les pieds, là.
C'est François-Joseph.
C'est Piron, quoi.
C'est 1880-90, un petit peu avant 1900. Quand j'avais le temps, je préparais les pianos, je les vidais comme un poisson pour mettre l'amant à l'intérieur ou un jack in the box ou parfois même je renforçais le couvert pour que des personnes puissent danser dessus. Ça m'est arrivé, ce genre de demande. Mais là comme j'ai beaucoup moins de temps et de place surtout, je les propose dans l'état et puis les gens les vident à leur guise.
Très bien, très bien. Non, c'est en fait, moi, je cherchais quelque chose de plus contemporain, quoi, avec un pied droit, vous voyez ce que je veux dire, parce que c'est un...
Plus contemporain, oui. Ça, on peut mettre des pieds, mais il faut les teindre. J'ai des ébauches de pieds carrés, coniques, troncs coniques, et il faut les peindre de la même couleur. Ouais.
Bah écoutez, il faut voir. Et celui-là, vous en demandez combien, vous m'avez dit, mais...
Il m'en faut au minimum 700 hors taxes. Si je récupère les pieds, que je vous fournis des ébauches carrées.
D'accord.
Soit je vous propose les attaches de pied, soit vous débrouillez en l'allégeant, il n'y a pas besoin d'être solide.
Oui, bien sûr.
Je vous laisse le regarder, on va continuer
visite
avec Marion.
Oui, merci.
Il y a quelques armoires qui contiennent toutes ces pièces qui sont introuvables actuellement.
Donc là, vous nous montrez un marteau.
Un marteau de piano à queue est rare. C'est très fragile et quand on doit intervenir, souvent on tire la mécanique comme un tiroir. Et les novices ne savent pas que le marteau doit être complètement en repos. Et souvent, ils décapitent quelques marteaux en tirant.
D'accord.
Et comme c'est irréparable tellement c'est fin, c'est un bois assez spécial, il m'arrive souvent d'envoyer des marteaux très longtemps. Depuis longtemps, j'envoie des marteaux pour ces mauvaises manipulations. Celui-ci, on voit qu'il a, il a un côté propre, un côté sale. Donc, oui. C'est un piano vraisemblablement de garde-meuble qui a fait peut-être 30, 40 ans de garde-meuble ou de station sur le champ.
C'est, d'accord. C'est,
là, on le voit tout de suite. Là, vous voyez la différence. Ce sont des pianos abandonnés que je récupère pour faire de la pièce détachée. Et d'ailleurs, j'ai toujours besoin de pieds, de lyres, de certains éléments de mécanique et de pupitres. Je vais toujours chercher des pianos à petit prix ou gratuits pour justement alimenter la demande en pièces détachées anciennes.
Cela vous arrive de tomber sur des anciennes pièces de collection qui sont hors d'usage et complètement mises à l'écart ?
Ça m'est arrivé, j'ai actuellement un piano qui a vu Louis XVI avec sa tête, mais que j'ai acheté dans une vente, le prix normal. Je l'ai d'ailleurs, comme j'avais pas de place et que c'était une pièce rare, je l'ai déposé dans un château à habiter, une sorte de musée, château de la Chapelle d'Angillon, qui fait visiter son château, enfin cette demeure historique est visitable et c'est près de Bourges, sur la route Jacques-Cœur. Donc vous voyez, je trouve parfois des pièces rares, mais de moins en moins, parce que tout est écumé maintenant. On trouve peut-être en Angleterre encore, en allant chiner en Angleterre, des pianos, peut-être un petit peu avant 1850, mais plus avant 1800.
Alors finalement, quel est votre travail principal ?
Mon travail principal, il y a plusieurs aspects. Certains jours, je ne fais que de la fabrication de feutres spéciaux. Pour ça que j'ai construit un petit atelier chauffé. Prendre du feutre blanc, coller du feutre rouge, et puis faire des coupes pour faire des bandelettes de feutre d'étouffoir, par exemple, qui sont adaptées à certains pianos dont on me demande souvent de l'étouffoir pour tel ou tel piano, piano à queue est rare, comme le marteau que je vous ai montré. Certains vieux Pleyel. Et il y a assez de demandes pour que je puisse faire une fabrication artisanale, mais limitée, quelques centaines de bandes seulement. Et puis la proximité avec les teintureries, on n'est pas loin des Gobelins. Je connais des teinturiers qui me teignent des feutres, des vieilles couleurs, vieux gris, bleu gris, gris souris, pour remettre un piano dans sa livrée d'origine, c'est-à-dire les couleurs exactes. Avec un ami, Stéphane Polello, nous vendons aussi des cordes qui sont adaptées à la tension de ces vieux pianos. Parce que si on met de la corde moderne sur un piano ancien, le piano va exploser. Pardonnez-moi de rentrer dans ces détails techniques, mais on est obligé de les prendre en considération pour pas casser le piano en deux. Si on tend avec des cordes modernes un vieux piano de 1850, il va exploser ou se vriller comme une hélice. Donc grâce à mon ami Stéphane Polello, nous fabriquons, moi je vends et lui fabrique des cordes en fer doux qui ont la tonalité beaucoup plus vite que les cordes en acier moderne. Ce qui fait qu'on est à 30% de moins de tension et là c'est le sommier, c'est-à-dire la grosse planche de hêtre qui concentre toute la tension du piano, ne risque pas de casser. Parce que je m'occupe aussi de pièces neuves. Il y a des pièces neuves que j'achète en Angleterre, en Allemagne, pour rééquiper des pianos un peu plus récents, des feutres spéciaux, des mouches. Les mouches sont ces petites rondelles qui amortissent la descente de la touche. Certaines pièces de quincaillerie, les chevilles, les cordes modernes. Certains feutres comme ceci, coupés en tout petits carreaux pour équiper les chevalets. Et je fabrique aussi maintenant, comme ça a baissé de 40% depuis l'euro, l'activité, je fabrique des isolants phoniques multicouches qui servent justement à pouvoir garder plus longtemps le piano acoustique chez soi. Ça a l'avantage de couper la vibration solidienne, on appelle cette vibration, qui peut être soit les bases de l'instrument, soit le martelage des doigts sur le clavier, qui passe par les pieds ou les roulettes, par les pieds du piano à queue ou les roulettes du piano droit, dans le sol, et par les cloisons de béton qui vont gêner les appartements latéraux ou du dessous de la pièce où joue le piano. Alors, ce sont des isolants avec une couche de résine qui fait répartition de charge et puis plusieurs couches de feutre et de caoutchouc spécial. Et ça a l'avantage de très bien couper ce que les gens entendent en dessous. Ça ne coupe pas la sonorité dans la pièce, mais ça coupe la transmission du son et des vibrations par les parties solides. Cette couche de résine est très solide, assez fin, mais ça peut supporter empoisonnement presque 100 kilos. Et ça, c'est pour caler cette matière et pour caler la roulette au centre, pour pas que ça dessale, enfin c'est un terme technique de bateau, pas que ça se retourne. Et il y a des feutres et caoutchouc spéciaux en dessous.
Alors ça, c'est un marché important.
C'est en train de le devenir. D'ailleurs, je n'ai pas le choix, je le fais savoir, parce que je mentionnais tout à l'heure que ça avait beaucoup baissé, la réparation de pianos anciens. Donc il faut que je trouve d'autres domaines pour déjà m'occuper, les mains et la tête. Il faut s'adapter à un changement d'époque. Maintenant, on vit de plus en plus serré les uns sur les autres. Et ceux qui veulent continuer à jouer du piano acoustique doivent penser à utiliser ce genre de choses. Parce qu'il y a sans arrêt des procès. Je crois qu'on a le droit de jouer de façon amateur, mais on n'a pas le droit de jouer de façon professionnelle. Si des profs de musique qui donnent des cours chez eux, je pense que ce n'est plus possible maintenant. Donc ils essayent de trouver des systèmes pour mettre sous les pieds de leur piano, des isolants spéciaux, pour mettre à l'intérieur des panneaux. Donc le piano est bridé, mais ils peuvent continuer à travailler. Et certains passent maintenant à des bons pianos numériques, avec reproduction du toucher du piano, qui fonctionnent bien, mais enfin on ne peut pas les réparer, puisqu'au bout de 15 ans, c'est mort ces pianos-là, on les change seulement.
Alors pourtant, on remarque quand même depuis quelques années que des musiciens professionnels, des musiciens, des concertistes recherchent de plus en plus des anciens pianos. Par exemple, jouer sur des pianos forte pour certaines pièces musicales. Et est-ce que vous le ressentez, vous, dans votre activité ?
Je le ressens. D'abord, on ne trouve pas toujours la perle rare qui servira à un enregistrement, mais je ressens ça dans une demande de certains particuliers qui créent une collection, parfois de plusieurs dizaines d'instruments anciens. Comme souvent ils nous parviennent, ces instruments, ils ont été trop touchés ou ils ont été modifiés, ça n'intéresse plus les collectionneurs. Donc c'est très rare qu'on arrive à mettre la main sur la perle rare, comme celui que j'ai prêté dans une collection privée, parce que ils ont été déjà touchés, ils ont pour la plupart entre 150 et 200 ans, ils ont été mis au goût du jour, ils ont été réencordés de cordes modernes, donc tout est arraché, et il y a des réparations qui peuvent dépasser la valeur vénale de l'instrument. Mais chaque matin en arrivant, je souhaite que j'aurai l'appel téléphonique qui me fera trouver la perle rare. J'ai une sorte de chercheur d'or en même temps. Et c'est pour ça que j'ai du plaisir à chaque matin à venir à vélo à mon atelier.
Moi, ce qui me semble un petit peu paradoxal chez les collectionneurs, c'est de chercher des pièces anciennes qui finalement n'auraient pratiquement jamais servi, qui n'ont pas de vie en elles-mêmes, puisque si elles n'ont jamais aucune pièce n'a été changée, ça veut dire que le piano n'a pratiquement jamais servi.
Oui, on peut changer les pièces et garder l'instrument avec ses cordes d'origine, avec ses feutres d'origine, mais quand il a été mal réparé, en général, c'est rédhibitoire, et le sommier est arraché, ou de l'autre côté vers la queue, parce que souvent les pianos historiques sont des pianos à queue, le sommier d'accroche est lui aussi à bouger. J'entendais de trouver quelque chose qui soit avant 1830, c'est un petit peu le passage de la grande collection 1830 et 1840, c'est les pré-pianos romantiques qui ont mené jusqu'à 1900. Mais quand on trouve quelque chose d'avant 1830, d'abord on ne le restaure pas, parce que chaque collectionneur a son idée de la restauration, il faut juste lui donner un air de fête. peut-être refaire un petit peu les vernis au tampon, recoller ce qui est abîmé dans le meuble, mais on le garde en état collection, c'est-à-dire non restauré, ils sont en général pas en état de jeu. On les nettoie, on passe au Nico, c'est une espèce de miroir qui ravive le vernis, et on ponce un petit peu les cordes pour qu'ils soient beaux à voir. Mais il ne peut pas jouer. C'est en général le dernier destinataire, le pianiste qui joue sur instrument d'époque ou le collectionneur qui va décider de qui va le restaurer et dans quel esprit.
Alors quand on travaille sur ces vieux pianos, j'imagine que le son est différent. Vous aviez déjà dit que les tensions de cordes étaient différentes. Comment on accorde ce type de piano? Parce que j'imagine aussi que l'accord a dû être modifié suivant les années. Enfin, on essaye d'avoir ou plus d'amplitude ou pas, mais comment ça se passe?
L'accordage des vieux pianos se fait... L'accordage est égal, contrairement à les tempéraments égaux, contrairement aux clavecins qui, eux, avaient des notes, des intervalles qui étaient pas tout à fait les mêmes les uns avec les autres. Dans un clavecin, on pouvait jouer qu'à 3 dièses ou 3 bémols. Mais depuis le clavecin bien tempéré qui passait par toutes les tonalités, on a dû mettre au point, ça a été dur pour les oreilles de l'époque, on a dû mettre au point le tempérament égal. Et c'est le tempérament égal qui est utilisé parce que dans la musique romantique, les affects de l'âme font qu'il faut une grande liberté de tonalité pour passer par tous les états d'âme, il y a des grands changements de tonalité. Donc dans le piano, le tempérament égal est retenu, mais à cause de la tension des cordes, et aussi parce qu'à l'époque baroque, on venait d'un diapason qui était un demi-ton plus bas que le diapason actuel, on a monté graduellement de 415 Hz pour le La à 430, avec par exemple les pianos de 1820 étaient en 430 Hz, le clavecin 415, les pianos pré-romantiques 430, et on est arrivé doucement à 440-442 à l'heure actuelle. L'accordage est donc égal, c'est-à-dire que si l'octave est un gâteau, on fait 12 parts égales, alors qu'avant, il y avait des parts pour gourmands et des parts pour enfants. J'exagère un peu, mais c'est pour faire comprendre. On procède en général, il y a deux façons de faire. C'est l'accord, on fait par quinte et quarte, c'est une méthode qui fait comme un labyrinthe. On a de temps en temps des vérifications, mais j'apprécie peu cette méthode parce que on se rend compte qu'à la fin, si on est bien calé ou pas pour la série de quinte et de quarte. Et je préfère la méthode par tierce. Déjà, c'est comme si on recouvrait le toit d'une maison, l'octave est la maison, et il faut mettre des poutres, on divise l'espace à couvrir en trois parties égales, trois tierces majeures, fa la, la do dièse, do dièse fa. Et tant que c'est pas équidistant, c'est pas la peine de continuer, puisque la partition ou la façon de couper le gâteau en douce sera bancale. C'est trois tierces majeures qui sont légèrement plus grandes pour pouvoir tenir dans une octave juste. On peut accorder à n'importe quel diapason, à 428, à 433, à 442, il faut que ce soit progressif, parce que les tierces étant trop grandes, créent des battements. Ce sont des interférences entre les notes. Ces battements, on les compte. Et il faut qu'ils soient progressifs. Par exemple, à 440, ce sera environ 5 pour fa la, environ 7, 7,5 pour la do dièse, et un peu plus de 10 pour do dièse fa. Et si on accorde à 430, il y aura peut-être 2 ou 3 battements de moins à la seconde. Et si on accorde à 445, là, ça commence à battre très fort. C'est un grand avantage, cette partition, pour accorder à n'importe quel diapason de façon égale. Et une fois que les poutres maîtresses, c'est-à-dire les trois tierces, sont calées sur l'espace d'une octave, après, on commence à mettre les petits chevrons, les litos, on descend par la carte d'un demi-ton, et on fait sol dièse, do, mi. On peut vérifier en quinte, mais on descend par la carte. Et on fait trois autres tierces majeures en descendant. comme on a fait les trois premières tierces parfaitement équidistantes, c'est simple de se recaler puisqu'on a une colonne vertébrale pour la partition. Et c'est l'avantage de ces pianos, on ne revient pas trop, comme les chevilles sont faibles en général sur des pianos anciens, on ne revient pas trop en arrière pour solliciter trop souvent une cheville sur laquelle on a fait une petite erreur de jugement. Voilà, à peu près, sans tomber dans le pédantisme technique, ce qu'on peut dire sur l'accord.
Vous parliez tout à l'heure de clavecins. Est-ce que vous travaillez sur des clavecins ou uniquement sur les pianos ?
Les autres instruments que j'ai réparés, c'est très rare les clavecins, je sais remettre un plectre, mais ici, il y a parfois des clavecins. Auparavant, il y a 10 ans, il y avait parfois des clavecins, mais c'était des clavecins un peu lourds, des copies d'anciens, qui intéressaient plus des pianistes que des vrais clavecinistes. Ça a l'allure d'un clavecin, mais c'est un mélange entre un piano et un clavecin, parce qu'il y avait parfois même un cadre métallique. Donc il y a très peu de clavecin ici, mais j'ai des clients en clavecin puisque je vends des cordes de clavecin. Ce sont d'ailleurs les mêmes cordes qu'utilisent les joueurs de sitar et les joueurs de guitare portugaise. Donc j'ai les amateurs de Ravi Shankar, les amateurs de fado et les clavecinistes qui viennent pour chercher de la corde spéciale. Mais bon, les instruments, c'est très rare, j'en ai. Maintenant, j'en ai plus jamais. En revanche, je m'occupe pas mal d'harmonium parce que j'ai recueilli 25 un fond d'usine d'anches d'harmonium. Ce sont ces petites lamelles en bronze ou en chrysocale qui, au passage de l'air, font une vibration amplifiée par une espèce de case en bois dans l'instrument. Donc j'ai beaucoup de pièces détachées d'harmonium et de temps en temps, il m'arrive de récupérer un vieil or que je vends en pièces ou que je m'amuse à restaurer pour mes besoins propres, parce que j'aime l'orgue. J'aurais aimé être organiste plus que marchand de piano, mais ça c'est une autre histoire.
Il y a des problèmes particuliers dans le travail de restauration de l'orgue par rapport à un piano ?
Le particulier, on ne peut déjà toucher que les petits positifs d'accompagnement. Parce qu'un orgue, j'ai rêvé d'en faire un ici, puisque j'ai assez de hauteur. Et j'avais récupéré un meuble gratuitement par un facteur d'orgue qui reniait un peu son travail de jeunesse. Je lui avais offert une valise d'accords que j'avais récupérée avec un piano. C'est tellement gigantesque. C'est un travail fait pour des équipes de 3-4 personnes, il faut des échafaudages, il faut une science, ça ne s'improvise pas. J'ai fait des petits positifs à tuyaux, mais un vrai orgue à tuyaux, c'est un métier que j'ai compris un peu tard, que je ne pouvais pas mener de front mon travail ici et la construction d'un orgue. Donc ça sera pour plus tard, peut-être, quand je transformerai ma maison de campagne en chapelle.
Alors moi, je vais te donner un petit coucou, je vais dire un petit coucou à mon ancien professeur de piano qui est sur Toulon et qui est claveciniste. Pourquoi la particularité d'un clavecin ? Là, je sais qu'il se désaccorde très très facilement, et pour quelle raison ?
Les matériaux d'un clavecin sont extrêmement fins. La table d'harmonie, j'ai quelques amis qui fabriquent des clavecins, la table d'harmonie est si fine qu'en la mettant devant une lumière assez forte, on voit la lumière à travers. Donc c'est très sensible aux variations hygrométriques. Elle monte, elle descend, c'est une membrane de haut-parleur, mais en épicéa très fin. Ça monte, ça descend quand l'hygrométrie monte ou descend. Quand on met le chauffage central, ça sèche au point de casser. Et inversement, quand il y a beaucoup de pluie, si l'appartement est humide, elle peut gonfler au point de toucher les cordes. J'ai vu un clavecin où la table d'harmonie est tellement montée, gondolée, c'était de la tôle ondulée qui touchait les cordes. Les cordes sont très fines aussi et il n'y a aucun cadre métallique. Donc l'instrument, comme certaines armoires qu'on entend craquer pendant le sommeil dans la nuit quand il fait sec, comme certaines armoires, peut se fendre, se tortiller. Ça travaille même la nuit, même le dimanche, les clavecins, et à se déformer. Et il faut vraiment avoir des systèmes hygrométriques de régulation pour qu'il soit jouable pendant une semaine avec l'accord qu'on a fait. En général, c'est le 4 pieds, le jeu d'octave, qui bouge le plus. Il arrive qu'on puisse jouer pendant quelques semaines les 8 pieds, ça, le jeu de base, sans qu'il y ait trop d'accords à faire. Tout dépend de la construction. Certains clavecins, copies d'anciens, étaient très instables. Et puis, il y a des facteurs plus ou moins bons qui privilégient la beauté de l'instrument plus que la qualité de tenue d'accord. J'ai vu certains clavecins, on pouvait presque tourner les chevilles à la main, d'autres c'était un peu trop solide, ça ressemblait à un piano. Donc tout existe puisque c'est artisanal et qu'il y a une multitude de facteurs. Il y en a des bons et il y a des babacools aussi. Donc ça dépend sur quel clavecin on tombe.
Dans la restauration des pianos, vous avez également les pianos droits. On parlait beaucoup des pianos à queue. En général, dans les familles, quand il y a un enfant qui arrive, enfin qui veut jouer, soit on trouve un vieux piano d'occasion, un vieux piano de travail d'occasion. Quelle est la différence entre un piano droit, ça c'est pour juste nos auditeurs, entre le piano droit et le piano à queue, véritablement?
Le piano droit est très logeable puisque les cordes sont disposées verticalement. Il a l'épaisseur du barrage, c'est-à-dire une grosse pièce d'assemblage de bois qui tient le cadre, s'il y en a un, et la largeur du clavier. Donc on peut le mettre contre un mur à peu près partout. Mais pour un piano à queue, je pense qu'on en parlait tout à l'heure, les cordes sont à plat, donc ça prend plusieurs mètres carrés dans l'appartement. Mais le toucher est plus naturel, puisque c'est la pesanteur qui fait revenir les marteaux et toute la mécanique. Pour la plupart des pianistes amateurs, le piano droit suffit. Surtout que certains pianos droits sonnent mieux que certains pianos à queue. Le modèle P Pleyel, qui a été fabriqué entre les deux guerres, c'est le plus beau des pianos droits, à mon avis. C'est pas le plus puissant. Il y a des pianos plus puissants. Mais la qualité du timbre fait que c'est le plus harmonieux des pianos droits. Et je préfère avoir un modèle P Pleyel qu'un piano lambda à queue, personnellement. Parce que là, on peut interpréter, on fait un cluster, n'importe quelle agrégation de notes. L'instrument est tellement bien conçu que ça devient harmonieux. En revanche, sur certains pianos, même modernes d'Extrême-Orient, c'est agressif. On a l'impression d'avoir des poignées d'ortie dans les oreilles. Il ne privilégie que la puissance. Piano droit, piano à queue, il faut savoir de quelle conception, de quelle marque nous parlons. Piano droit, donc pour travailler, c'est largement suffisant pour trois quarts des pianistes. Surtout s'ils sont équipés d'une sourdine. Ça permet de pas déranger les voisins et même son entourage. Parce que c'est quand même ingrat, les débuts du jeu. Piano à queue, ben c'est pour les esthètes, parce que c'est beau. C'est une décoration, c'est un objet esthétique, d'art ancien et moderne à la fois. Et ça valorise un appartement ou une maison, un piano à queue. C'est le roi des instruments au milieu de sa propre unité de vie. Sur certains, sont magnifiques en sonorité aussi. Les gens qui ont la chance d'avoir un Steinway ont un Stradivarius chez eux.
Et pour en revenir à ces fameux pianos droits, alors on voit depuis quand même quelques années, enfin ça date déjà, vous parliez tout à l'heure de pianos de l'Asie. Alors on voit les Petrov qui sont en vente un peu partout et autres. Qu'est-ce que vous conseilleriez à nos auditeurs? Est-ce qu'il vaudrait mieux acheter un piano droit assez ancien, de style Rameau, Pleyel ou autre, ou plutôt se tourner vers ces nouveaux pianos qui arrivent, que l'on voit comme justement les Petrov ou un bon, il y a des bons Yamaha, mais qu'est-ce que vous diriez, vous?
Là, on tombe dans une polémique avec les marques. Je ne vends aucune de ces marques. Les Yamaha sont très bien faits, tout ce qui est japonais est très bien fait, mais je trouve le son presque inodore et sans saveur. C'est un instrument de travail. Je me régale du son d'un pléiel entre les deux guerres, bien restauré. Je me régale du son d'un Steinway du début du siècle ou des premières 30-40 années du siècle dernier. Mais je n'arrive pas à me régaler avec un instrument neuf de toute façon. Hein. Après, c'est des questions de prix. Hein. Il faut que la personne trouve l'adéquation entre le prix qu'elle peut mettre et puis la sonorité. C'est pas la peine d'avoir un instrument très puissant. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit bon, doux, en jouant doucement. Et qu'il ait assez de hauteur pour que les basses soient profondes. Assez de savoir-faire de la manufacture pour que les médiums soient chantants et les aigus pas perforants mais perlés.
Oui.
C'est assez difficile à avoir quand on sait que maintenant les feutres modernes sont imprégnés. C'est de la laine la base, mais il y a tellement de produits pour que ça soit dur et inusable que le son passe derrière. Les gens confondent la qualité d'un piano avec sa puissance. Mais pour moi, la puissance est un viol sonore. Un piano doit défendre un texte musical. Et sur Ravel, Fauré, Debussy, il n'y arrive pas, à mon avis. Il faut un piano de la première moitié du XXe siècle. C'est les pianos de l'origine de ces musiques.
Je veux parler par exemple des violons. On dit plus une guitare, plus un violon est ancien, plus il a une sonorité extraordinaire qui favorise un jeu plus puissant ou plus délicat, dirais-je. Est-ce que chez les pianos, c'est exactement la même chose ? C'est-à-dire qu'il se bonifie comme le bon vin en vieillissant ?
Il se bonifie s'il a la chance d'être dans des conditions hygrométriques stables. Si c'est trop humide, les marteaux vont gonfler et il va perdre son timbre, les cordes vont rouiller. Et si c'est trop sec, tout va se desserrer, la table va fendre et il va perdre de son assise sonore, puisqu'il n'y aura plus une seule table, il y aura plusieurs tables juxtaposées, ça fera comme un parquet. La table d'harmonie qui doit être bombée, voûtée, perd son caractère de membrane de haut-parleur et ça devient du plancher et parfois même ça va jusqu'à vibrer contre l'armature de la table d'harmonie à certaines fréquences. Donc si le piano est bien conservé 50, 100 ans dans des conditions idéales, c'est-à-dire une maison qui est aérée, chauffée régulièrement mais modérément, le piano garde sa sonorité. C'est seulement à ce point qu'on peut parler d'un piano ancien qui sonne toujours. Et en général, la musique créée pour les pianos de l'époque, ou inversement, on joue sur instruments d'époque, on joue Haydn sur les petits pianos-tables ou les tout premiers pianos à queue, on joue Beethoven sur les pianos viennois, on peut jouer aussi sur un piano moderne, peut-être que Beethoven, s'il pouvait entendre un Steinway jouer sa musique, il dirait formidable. On joue la musique romantique sur des pianos plus onctueux, qui prêtent plus à la rêverie. La musique du début du siècle impressionniste, on joue ça sur des pianos qui lit très bien, c'est-à-dire quand on joue quelques notes, c'est comme un orgue, le son dure longtemps, et il y a un mélange des différentes fréquences de possibilités de la table qui fait que ça fait un halo sonore, un souffle. Alors on peut jouer des musiques impressionnistes avec ce genre de piano. Après, faut jouer Messiaen ou de la musique moderne avec des pianos qui, au contraire, font ressortir chaque voix, chaque agrégat sonore, aigu, basse, il faut que ça joue un peu comme un orgue, tout entendre à la fois comme un orchestre. Le piano d'une époque collait à la musique de son époque. Mais comme je disais, je pense que si tous les compositeurs avaient pu entendre un très bon piano moderne, je pense qu'ils auraient composé pour cet instrument. Mais ça n'existait pas à l'époque, chaque chose en son temps.
Et que pensez-vous de la qualité des pianos comme... Alors, on parlait des Steinway, mais des Bösendorfer ou des Fazoli. Là, on parle du haut de gamme.
Oui. Le haut de gamme, pour moi, Steinway est un... inatteignable, parce qu'il faut savoir qu'il y a 100 ans, ils étaient arrivés à cette conception, parce que M. Steinway avait demandé à toutes les têtes de son époque, physiciens, ingénieurs de la résistance des matériaux, ingénieurs pour la fonderie, il avait mis au point le piano moderne en 100 ans avant la conception du Fazoli. Par exemple. Mais ce sont des pianos extrêmement intéressants aussi, ces pianos-là, parce que c'est une autre approche de la musique. C'est une approche viennoise, plus onctueuse, moins percutante. Et c'est fait avec énormément de soin, avec des matériaux sélectionnés. Mais il n'y a que les collectivités qui peuvent se payer ces choses-là. On ne peut les entendre qu'au concert. Hein.
Encore, j'en connais qui ont des Bösendorfer chez eux, surtout dans des studios. Enfin, il y en a dans des studios.
Chanceux.
Chanceux, oui. Et qui sont très fiers et très heureux d'avoir ce type d'instrument. Ça, c'est évident. Donc là, on va revenir sur l'accord du piano avec le travail sur des diapasons. Qu'ils ont de particulier ces diapasons
Ce sont des diapasons qui sont tous autour du La. Par exemple, là, c'est un 435, c'est pour jouer la musique éventuellement de deuxième moitié du 19e siècle. J'ai un 440 et un 442. Et d'ailleurs, on peut se servir de ces différents La pour arriver à avoir des vitesses de battement. Le battement, quand on fait vibrer un diapason, il y a une vibration qui donne une espèce de note, mais il n'y a pas de battement. Mais si je prends ces deux diapasons, celui-ci, ils sont un petit peu différents. Et quand on les bat ensemble,
ah oui,
on entend une interférence dont on compte la rapidité. Ça sera une autre vitesse d'interférence. Et ça, encore différent. Très rapide là. Et l'accord, dans l'accord, on se sert de deux notes qui sonnent ensemble et on compte la vitesse de ces interférences pour caler les notes à leur hauteur précise. En fin de compte, l'accordage d'un piano, c'est un acte technique mais pas du tout esthétique. Et ça permet, avec cette petite démonstration, de montrer que pour deux notes déterminées, il doit y avoir une vitesse d'interférence qui est contrôlée et qu'on stabilise. Un piano, une fois accordé comme ça, quand on vérifie avec un accordeur électronique, en général, si on est bon accordeur, on est à chaque fois dans la mire en plein centre. Voilà pour l'accord.
Mais comment vous faites pour calculer la différence ?
On compte les battements par seconde. Comme je disais, dans une octave, les trois tierces de référence, ce sera 5, 7,5 et 11, par exemple. Ou si on est à 430, ce sera 3, 5 et 7. Il suffit de compter dans une seconde, toc, toc, le nombre de vibrations.
Mais vous faites ça comme ça, enfin, je veux dire, à l'oreille
C'est une habitude qui est devenue une mémoire. D'ailleurs, on peut être gêné par cette habitude qui a qu'à l'oreille de chercher les vibrations. Parfois au concert, dans des montées de tierces, par exemple, ou de quartes ou de sixtes, des montées parallèles, on peut être gêné parce que les vibrations dans une montée chromatique devraient aller en s'accélérant. Et parfois, les unissons étant très beaux, les vibrations sur une montée chromatique ne montent pas ou parfois descendent, alors que le piano paraît très beau. Et aussi en voiture, quand on dépasse une voiture très, très légèrement sans la dépasser très vite, quand on la dépasse très doucement, le bruit des deux moteurs fait des interférences que j'entends. Tiens, on dirait un battement de carte très lent, ou tiens, on dirait un battement un peu lent de tierce sous la partition. Et c'est seulement les interférences de deux bruits de moteur amplifiés par l'habitacle de la voiture qui fait que j'entends des battements, le même genre de battement qu'on recherche en accordant un piano.
Alors là, vous me faites penser quand même aux conversations que j'entends des ingénieurs du son qui ont souvent des discours très sibyllins entre eux, des débats sur tel son à 20.5. Et là, je suis pareil. Quel public vous avez ici? Quelle clientèle avez-vous en général?
Alors, la clientèle, c'est en général 80% d'accordeurs de métier, dont à peu près 20-25% passent à l'atelier. Et tous les jours, j'ai ma petite heure d'emballeur professionnel, parce qu'il faut que je démonte des pièces anciennes, puis bien les isoler dans du papier à bulles pour les faire passer. La poste passe en début d'après-midi pour chercher les bons jours, 7-8 colis, les mauvais jours, un colis. Donc beaucoup de ventes par correspondance et à tous les accordeurs de France et de Navarre. Et puis les accordeurs parisiens et de sa banlieue passent souvent parce qu'ils préfèrent toucher, voir ce qu'ils achètent. Et ils viennent chercher des cordes, des chevilles, des feutres, parfois les jeunes de l'outillage, clés d'accord, outils de réglage, tournent à gauche, mais je leur dis qu'ils tournent à droite aussi, mais c'est le terme générique, tourne à gauche. Ça, c'est pour à peu près 80% de la clientèle. 20% d'étrangers de passage, des amateurs qui viennent chercher leur petite clé d'accord pour accorder eux-mêmes leur piano. Quand ils ont quelques notes qui tiennent mal parce que la corde a été changée, c'est instable pendant un mois à peu près. Et puis des bricoleurs qui veulent réparer eux-mêmes leur piano. Et puis parfois, comme tout à l'heure, un décorateur qui veut un piano pour un décor de film. Ou des sculpteurs façon Armand qui veulent des pièces détachées pour faire une installation musicale à base de piano. Ou des délires avec des lyres de piano, enfin c'est... Tout est possible, puis bien sûr les joueurs de sitar, les joueurs de guitare pour certaines cordes, les joueurs de birimbao, les carrossiers pour décoller leur pare-brise cassé, ils ont besoin d'une corde à piano pour passer, couper le joint collé sur tout le pourtour, les bijoutiers qui ont besoin de cordes pour un spécial, les pêcheurs pour faire des hameçons particuliers pour la pêche à la mouche ou que sais-je. Beaucoup d'autres encore, la mode pour faire des magnifiques chapeaux de mariage avec tout un tas d'oiseaux, de petits fanfreluches, ils ont besoin de cordes à piano. Et quand Marion sera partie, je me disais que j'aurais pu trouver encore d'autres applications à mes cordes. Et bien sûr, les personnes âgées qui ont les pieds lourds, qui viennent chercher des socles en verre pour remonter les pieds arrière, les pieds de leur lit, les antiquaires qui viennent chercher des vis de tabourets pour les tabourets dont la vis est cassée, le mobilier national et les grandes administrations, Sénat et compagnie, Élysée, qui viennent chercher des socles en verre aussi pour pas que les meubles anciens du mobilier national abîment les parquets des palais de la République et les beaux tapis des Gobelins. On pourrait continuer la liste comme ça, mais ça c'est l'essentiel des gens qui passent par ici, dans cette petite échoppe en plein Paris, assez étonnante, parce que nous sommes que deux en France à avoir cette activité. Le deuxième ne vend que de la pièce neuve, un petit peu comme s'il vendait des pièces détachées de machines à laver, il n'est pas très intéressé par le côté artistique. Donc ici passent plutôt les artistes qui recherchent une pièce ancienne ou des choses, ou qui viennent visiter une échoppe comme il y en a pu en plein Paris, avec une grande verrière derrière où sont entassés les pianos que je désosse et diverses choses qui font mon monde artistique. C'est un tout petit passage, très encombré de feutres et avec un comptoir où je coupe les feutres. Et puis derrière, un grand espace, très froid l'hiver, très chaud l'été, où les pianos sont démontés, où parfois je fais quelques réparations pour Pierre, Paul ou Jacques, ou pour moi sur un de mes instruments de collection.
Est-ce que vous avez en ce moment des pianos à vendre qui jouent, qui sont en état ?
Je n'ai rien à vendre, sauf des pièces détachées. Non, pour l'instant, c'est en train de s'arrêter cette vocation qu'avait l'établissement il y a 20 ans de vente de pianos. Parfois, 4-5 pianos intéressants, mais que je n'ai pas la place de réparer, parce que un piano droit, il faut le mettre sur un basculeur pour qu'il soit à plat comme un piano à queue. Un piano à queue, ça demande une place folle. Il faut le piano plus environ 1,50 m sur tout son pourtour pour pouvoir retirer les cordes, travailler autour. Et je n'ai plus cette place du fait que j'ai fait une salle pour façonner les feutres que la réparation des pianos anciens nécessite. Et pour aussi, enfin, déjeuner au chaud l'hiver et au frais l'été.
Quel est votre meilleur souvenir dans cette boutique au niveau des pianos ?
Meilleur souvenir, alors ça, il y en a beaucoup. Sont-ils le meilleur ? Ça peut être, par exemple, quand une jeune femme est passée me demander un piano qui ait vécu et un piano qui aurait vécu suffisamment pour que ça l'intéresse, et elle s'est mise à chanter au milieu des pianos. C'était la première fois que j'entendais ça. Une jolie voix, pas puissante, mais très juste, très belle. Et les personnes qui rentraient me disaient « Mais dis donc, t'as du beau monde, des personnes de qualité plutôt dans ton échoppe. » Et je ne savais pas de qui il s'agissait. Et puis j'ai su que quand elle m'a donné son nom pour acheter le piano à l'époque, c'était le paradis pour moi, parce que c'était Vanessa. Puis des pianistes un peu loufoques, un monsieur habillé des îles, habillé comme un boueux, très négligé, très sale, mais une chemise propre à l'intérieur avec deux cravates. Je n'ai jamais su qui ça pouvait être. Mais j'ai jamais entendu un piano de jazz sonner comme ça. J'ai toujours essayé de demander à des connaisseurs et je n'ai jamais su. Mais les gens s'arrêtaient de parler, on l'écoutait. Ou parfois des pianistes, des profs du Conservatoire de Paris qui venaient essayer un piano quand il y en avait. Pareil, le silence s'imposait parce que c'était... Il descendait sur le magasin et l'atelier derrière, il descendait un air de recueillement, on n'avait plus envie de parler ni de faire de bruit. Ce sont les meilleurs souvenirs que j'ai de... Puis aussi, quand la personne qui était avant moi m'a demandé de l'aider, qu'il était très malvoyant, puis il avait une situation familiale compliquée, il m'a demandé de venir l'aider pour une journée ou deux, et puis c'était en 82. Je suis resté 13 ans avec lui, et puis je navigue par mes propres moyens depuis 13 ans aussi. Voilà, ce sont les meilleurs souvenirs de ma vie.
Vous aviez quelle formation, vous, à l'origine ?
La formation, j'ai fait les beaux-arts, donc aucun rapport. Et puis, j'aimais le piano, l'harmonium. J'ai ouvert mon premier harmonium pour essayer de comprendre comment il fonctionnait. J'ai essayé d'accorder. Puis, ce monsieur qui m'a recueilli a vu que je tournais les chevilles, mais je n'accordais pas. Donc, il m'a formé pour le métier d'accordeur. Mais enfin, je n'ai pas fait polytechnique, je peux dire plutôt que j'ai fait polisson.
Je pense qu'il faut quand même avoir beaucoup de passion pour faire un métier pareil.
Une passion, oui, étymologiquement, on la supporte. Ici, je ne supporte que le froid. Et puis quand il y a une ambiance où on se demande si on est à la bonne place, parce que le téléphone ne sonne pas, parce que la vie est dure. Donc le premier poste sur lequel restreignent les éventuels clients, c'est les postes comme le mien, le piano, les loisirs. Mais c'est tellement bien ici que j'ai la chance, même si je fais aucun bénéfice, de ne pas avoir de patron et d'être indépendant. On le paye cher parfois, mais c'est quand même un bonheur d'arriver dans sa petite boutique, s'il fait pas trop froid, d'aller travailler derrière, préparer un piano pour qu'il soit Ils servent pour une cascade de cinéma, que sais-je. Ou alors préparer une commande très particulière, très délicate à façonner. Donc il faut avoir bien dormi la nuit. Il y a des coupes très précises. Si on se loupe, on risque de se faire mal, se couper un doigt ou de gâcher de la matière, de perdre une demi-heure et d'être obligé de refaire la pièce. Mais c'est passionnant et je remercie Marion de s'être intéressée à ma petite personne et à tout son décorum dans cette boutique où je reçois volontiers toutes les personnes qui ont des problèmes avec leur piano.
Voilà, moi je le conseille. C'est une boutique, parce que là on voit énormément de boutiques qui ne durent pas 2 ans. Vous êtes depuis combien d'années? Enfin, la boutique existe depuis combien d'années sur Paris?
Le fondateur, M. Guimeneau, a commencé en 61 et s'est mis à vendre les pièces détachées juste avant 68. Donc, c'était très dur, parce qu'en 68, c'était les pavés qui pleuvaient, mais pas les commandes. Mais il a tenu le coup et jusqu'en 95, avec moi qu'il secondait, il a développé cette entreprise et avec les changements de mode des temps, je suis depuis 95 seul. C'est plus la même boutique, même si ça porte le même nom, c'est plus la même boutique, que les motivations des réparateurs ont changé, on répare d'autres pianos. Donc on s'accroche et on sera optimiste jusqu'à la veille de la tombe. Merci Marie.
Bien, merci beaucoup. Je vous conseille d'aller voir Marc et Elisabeth. Et puis, ils vous accueilleront de manière très charmante. Ici, Autre Radio, Autre Culture. À très bientôt. Autre Radio, Autre Culture.